Les podcasts de l'Institut de France. L'entretien de la semaine. Rencontre avec une académicienne.
Ces dernières années, le système immunitaire est devenu l'un des grands terrains de conquête de la recherche médicale. Nos défenses naturelles n'ont jamais autant occupé le devant de la scène scientifique. Pourtant, leur système est d'une complexité assez fascinante. Cette armée intérieure est composée de multiples cellules, chacune avec sa mission. Et parmi elles, il y a les cellules dendritiques. On les appelle aussi les sentinelles de notre système immunitaire. Elles ne combattent pas directement les microbes. Leur mission est de les repérer et de donner l'alerte. Anna-Maria Lennon-Duménil est directrice de recherche à l'INSERM. Elle dirige une équipe à l'Institut Curie et s'intéresse depuis des années à la façon dont ces cellules dendritiques patrouillent dans notre corps. On va parler de tout ça aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour.
Je précise aussi que vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 2023. Alors, les cellules dendritiques, comme j'ai dit dans l'introduction, ce sont des cellules qui participent à la défense de notre système immunitaire. Et ce qu'il y a de particulier chez elles, c'est qu'elles ne vont pas combattre directement les microbes pathogènes. Elles servent d'abord à donner l'alerte. Elles patrouillent, c'est ça ?
C'est bien ça. En fait, ce sont les cellules qui vont initier les réponses immunes spécifiques, les réponses immunes, ce qu'on appelle les réponses immunes adaptatives, à savoir la mise en place de cette armée à laquelle vous faites référence et qui est formée de différents types de lymphocytes, donc qui sont d'autres types de cellules du système immunitaire, et qui, eux, sont équipés de moyens qui leur permettent d'être spécifiques d'un microbe. Par exemple, de reconnaître spécifiquement une bactérie et pas un virus. D'accord ? Donc c'est ça l'objectif des cellules dendritiques, c'est de repérer les microbes et de transférer l'information qui vient avec ce microbe, de quel type de microbe il s'agit et quel type de réponse immunitaire on doit développer face à ce microbe pour s'en débarrasser au plus vite. Donc ce sont des cellules qui informent, qui détectent et qui informent.
Ce sont comme des relais, donc elles ne tuent pas les microbes. Est-ce que vous pourriez décrire leur schéma d'intervention sans parler de leur mode de déplacement, parce que je sais que c'est votre sujet de recherche en particulier, qu'on va aborder juste après.
Donc en fait, nous avons des cellules dendritiques dans ce qu'on appelle les tissus périphériques. Donc qu'est-ce que c'est que les tissus périphériques ? Ce sont les tissus qui sont le plus fréquemment sujets à des invasions externes. Donc typiquement les muqueuses et la peau.
D'accord.
Donc, dans ces tissus, il y a un certain nombre, pas tellement de cellules dendritiques. Ce qu'elles font, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'elles patrouillent l'environnement. Leur fonction, c'est de détecter, de répondre au plus vite à une invasion, une intrusion. Ça peut être aussi à un dommage tissulaire qui va donc rompre une barrière, hein, par exemple la peau, lorsqu'on se coupe, la barrière est rompue, et donc toutes les bactéries qu'on a sur la peau, on en a un paquet, vont pouvoir pénétrer dans le tissu. Et donc, des cellules dendritiques sont là pour répondre à ça, d'une façon bien spécifique, parce qu'il y a aussi d'autres cellules qui vont répondre à ça, mais plutôt, comme vous disiez, en essayant d'éliminer directement les microbes, typiquement les macrophages ou les neutrophiles. Par contre, les cellules dendritiques, ce qu'elles vont faire, c'est capturer ces microbes ou des bouts de microbes éventuellement et de les transférer vers les ganglions lymphatiques, les transporter vers les ganglions lymphatiques les plus proches pour transférer cette information dont je parlais aux lymphocytes qui, eux, circulent par le sang d'un ganglion à l'autre.
D'accord. Et donc, vous disiez à l'instant qu'on les trouve principalement dans les tissus périphériques, par exemple la peau, les muqueuses. Pourquoi elles sont en plus forte concentration dans ces tissus périphériques ?
Elles ne sont pas vraiment en plus forte concentration, mais c'est là où elles ont leur fonction de patrouillage principale, d'accord, dans les tissus périphériques. Après, il y a d'autres tissus où il y a aussi des cellules dendritiques résidentes, qu'on appelle résidentes. Par exemple, il y a des cellules dendritiques qui circulent dans le sang et qui vont, elles aussi, d'un tissu lymphoïde, par exemple la rate, à d'autres, par exemple les ganglions. C'est-à-dire tous les tissus lymphoïdes qui sont connectés via la circulation sanguine. Et ceci parce qu'il y a des microbes qui infectent le sang. par exemple, il y a des bactéries qui vont pénétrer dans l'organisme via la circulation sanguine. Donc, on a besoin aussi de cellules dendritiques dans ces lieux-là pour pouvoir les détecter. Ce qu'il y a, c'est ce que j'ai voulu exprimer, c'est que les muqueuses, que ce soit la muqueuse intestinale, les muqueuses de type oral, vaginal et la peau, ce sont probablement les endroits les plus menacés, puisqu'ils sont en contact direct
avec l'environnement extérieur,
aussi tout ce qui est respiration, etc. Donc voilà, c'est là où le plus souvent elles ont à exercer leurs fonctions, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans d'autres endroits.
Ailleurs.
En fait, il y en a partout, en fait.
D'accord.
Il y en a partout.
Depuis quand la biologie a pris connaissance de ces cellules-là?
C'est
récent?
Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on connaissait la fonction des cellules dendritiques avant de connaître les cellules dendritiques.
Ah oui.
Elle avait été attribuée, c'est la fonction de montrer ses antigènes, présenter les antigènes aux lymphocytes pour déclencher les réponses immunes spécifiques. Cette fonction avait été attribuée à d'autres types cellulaires, en particulier aux macrophages. Et en fait, c'est dans les années 90 que Ralph Steinman, à l'université à New York, a pu vraiment identifier ces cellules dendritiques comme étant différentes des macrophages. Elles se ressemblent. Et pendant longtemps, on n'avait pas les outils pour pouvoir vraiment les distinguer. Par ailleurs, les cellules dendritiques sont bien moins nombreuses que les macrophages.
D'accord.
On a beaucoup de macrophages dans tous nos tissus. Ils ont aussi des fonctions essentielles, à la fois protectrices, par exemple, de manger des bactéries lorsqu'elles s'internalisent, mais aussi des fonctions physiologiques homéostatiques, c'est-à-dire réparer le tissu lorsqu'il est blessé, aussi s'assurer du bon fonctionnement physiologique du tissu.
Mmh.
Donc, ce sont des cellules qui souvent résident dans le tissu en nombre important et qui sont adaptées à cet environnement.
D'accord.
Donc ça, ce sont les macrophages. Mais ce sont des cellules qui se ressemblent. Et en fait, les expériences clés, ça a été de pouvoir se rendre compte que dans une population de cellules complexes, en fait, il y avait des cellules qui étaient bien plus puissantes à présenter des antigènes aux lymphocytes que d'autres. Et c'est comme ça qu'on a pu distinguer cellules dendritiques et macrophages.
Vous disiez qu'on connaît leur existence, enfin qu'on a mis un mot sur ces cellules, un nom sur ces cellules depuis les années 90.
Oui, c'est ça.
Donc cellules dendritiques. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire, dendritique?
Voilà. En fait, ce sont des observations qui ont été faites sous un microscope.
Mmh.
En fait, les macrophages sont des cellules plus grandes, qui sont très adhérentes. Donc, lorsqu'on les met dans une boîte pour les observer au microscope, on va voir qu'elles s'étalent beaucoup. D'accord? Et les cellules dendritiques sont beaucoup moins adhérentes. Et en fait, elles ont des petits bras qu'on appelle des dendrites,
comme
le nom cellules dendritiques. Et ces petits bras sont très importants pour leur fonction de sentinelle, puisque c'est ce qui leur permet de sentir l'environnement, de capturer des antigènes. Donc en fait, les dendrites sont probablement l'outil principal des cellules dendritiques pour sentir
Les dendrites.
Ce qu'il y a autour.
Les dendrites, donc ce sont les petits bras de ces cellules.
Bras.
Je précise que le mot dendrite, parce que je ne le savais pas, vient du grec dendron, qui signifie l'arbre. Et donc, cette dendrite,
c'est
en référence
aux
branches. Aux
branches, exactement. Exactement.
L'arbre. Vous disiez qu'elles peuvent capturer avec leurs petits bras des pathogènes, mais on disait tout à l'heure qu'elles elles ne vont pas les tuer. Donc, en fait, qu'est-ce qu'elles font une fois qu'elles ont capturé?
Donc, en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça. D'abord, sur la capture des antigènes. En fait, les cellules dendritiques ne capturent pas uniquement les pathogènes. Les cellules dendritiques, elles mangent ou boivent tout le temps. Donc, elles font ce qu'on appelle la macropinocytose, qui littéralement veut dire boire un grand coup en permanence dans le tissu. La phagocytose aussi, d'accord, qui veut dire manger.
Ouais.
Et ça, c'est indépendant du contenu. En fait, cette internalisation d'antigènes continue, d'accord, à travers la macropinocytose, la phagocytose, leur permet vraiment d'analyser, d'échantillonner, en fait, ce qu'il y a autour. D'accord? Donc ça, c'est une fonction continue. Et les petits bras contribuent à ça. Mais une fois qu'elles ont internalisé, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont découper les antigènes en morceaux pour les associer à des molécules qu'on appelle molécules présentatrices. D'accord ? Et ce sont ces molécules avec les petits bouts d'antigènes que les lymphocytes vont pouvoir reconnaître. Donc, ce qu'on veut dire quand on dit « elles ne les tuent pas », c'est en fait, c'est pas tout à fait juste. Ce qu'elles vont internaliser, si elles internalisent une bactérie, sauf si c'est un pathogène très dangereux, le plus probable, c'est que cette bactérie meure. Si elles internalisent un virus, sauf si c'est un virus qui a la capacité de survivre dans les cellules dendritiques, le plus probable, c'est que ce virus soit éliminé. Mais par contre, elles ne vont pas chercher à manger et tuer toutes les bactéries ou tous les virus du tissu. Ça, ce sont plutôt les macrophages et les neutrophiles. D'accord ? Elles vont se contenter de ces quelques particules infectieuses qu'elles auront mangées et pour analyser leur contenu et courir les montrer aux ganglions lymphatiques les plus proches, aux lymphocytes circulants.
Très bien. Donc elles attrapent ces intrus en se déplaçant et leur déplacement, je crois que c'est précisément la question qui vous intéresse dans votre travail de recherche. Vous dites que, enfin, elles ont un mode de déplacement assez particulier. Elles ont deux manières de se déplacer. Lesquelles ?
En fait, ce qu'on a montré, c'est qu'elles ont différents modes de déplacement, dépendant de si elles sont en train de chercher, d'accord ? Si elles sont dans leur fonction de patrouillage, elles ne savent pas encore qu'il y a quelque chose de dangereux, ou si elles ont déjà eu un signal, repéré un signal de danger, et qu'elles veulent aller au ganglion lymphatique pour avertir le plus efficacement possible, les lymphocytes T. Ça a été une de nos contributions, de pouvoir caractériser, avec des approches de biologie cellulaire, de biophysique, et en collaboration avec différents collègues, de pouvoir vraiment caractériser ces modes migratoires. Donc ce qu'on a montré, c'est que les cellules dendritiques qu'on appelle immatures, donc ce qui sont les cellules qui patrouillent, qui n'ont pas encore trouvé, ce qu'elles font, c'est qu'elles mangent et se déplacent, mangent et se déplacent. Donc elles alternent des phases de macropinocytose, je bois un grand coup, et avec des phases de déplacement. Et en fait ça, d'un point de vue physique, ça a été caractérisé comme des modes de déplacement dits intermittents, qui sont optimaux pour chercher des objets qu'on ne voit pas.
D'accord.
Par exemple, il y a beaucoup d'exemples dans la biologie, mais dans le monde en général. Je vais en donner un très très simple, qui est, vous êtes sur la plage et vous avez perdu vos clés. Vous ne savez pas où elles sont, vous regardez autour de vous, vous ne les voyez pas. Le meilleur mode de recherche que vous pouvez mettre en place, c'est de vous déplacer et de chercher autour de vous. Si vous ne les trouvez pas, vous vous déplacez à nouveau, vous cherchez autour de vous, etc. C'est un mode de déplacement intermittent, où vous alternez des phases balistiques de déplacement et des phases de recherche. Pendant les phases balistiques, vous ne cherchez pas. Une fois que vous arrêtez, vous cherchez. D'accord. Donc ce qu'on a montré, et on a pu collaborer avec un physicien, Raphaël Voiturier, un biologiste cellulaire, Mathieu Piel, c'est qu'en fait, c'est ce même type de mode de déplacement qu'adoptent les cellules dendritiques, en tout cas dans certains tissus, comme la peau, et qu'on pense que ceci leur permet d'être optimal lorsqu'elles cherchent des antigènes. Et on pense que ceci pourrait être expliqué pourquoi il n'y en a pas beaucoup. En fait, c'est parce qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de cellules dendritiques. D'accord ? C'est simplement parce qu'elles sont très efficaces dans ce processus de recherche.
Alors, une fois qu'elles trouvent le pathogène,
une fois qu'elles trouvent, elles vivent une véritable transformation qu'on appelle la maturation. Donc, elles ont trouvé un virus, une bactérie, un parasite. Et là, elles vont vraiment se reprogrammer à tout niveau. D'un point de vue de la biologie cellulaire, de ces petits dendrites. Maintenant, les petits dendrites, ils ne vont plus leur servir à échantillonner et à internaliser. D'ailleurs, on va arrêter d'internaliser. Elles arrêtent d'internaliser les antigènes. Et ce qu'elles vont faire, c'est utiliser ces dendrites plutôt pour repérer les trous, les passages qu'il y a autour d'elles, et sortir le plus vite possible du tissu vers les vaisseaux lymphatiques, rentrer dans les vaisseaux lymphatiques et suivre ces vaisseaux jusqu'au ganglion lymphatique le plus proche, dans lequel elles vont rentrer et présenter les antigènes qu'elles ont identifiés comme dangereux aux lymphocytes.
Le tout en se déplaçant un peu plus rapidement ?
Donc en fait, oui. Puisqu'elles ne s'arrêtent plus pour manger, elles se déplacent plus vite. Maintenant, toute cette machinerie qu'on appelle le cytosquelette est concentrée sur la fonction migratoire. Donc maintenant, elles foncent.
Donc ce sont des cellules très intelligentes. Donc avec ces deux modes de déplacement que vous avez présentés, le mode intermittent quand elles patrouillent et ce mode unidirectionnel et très rapide quand elles l'ont trouvé, qu'est-ce que le fait de connaître leur mode de déplacement, donc ce sur quoi vous travaillez, qu'est-ce que ça peut apporter à la médecine à long terme, tout ça ?
Donc d'abord, j'aimerais dire qu'est-ce que ça apporte à la recherche,
oui,
avant d'aller vers l'aspect médical. Donc, si ces travaux ont été jugés par la communauté scientifique comme importants, c'est d'abord que c'était finalement la première fois qu'on montrait qu'une cellule était capable d'adapter son mode de déplacement à ses besoins en termes de fonction.
Mmh.
D'accord ? Donc, vous êtes capable d'adapter la façon dont vous déplacez à vos actions. Si vous êtes en train de parler dans un micro et de faire un entretien comme en ce moment, vous allez plutôt vous asseoir, enfin, sauf si vous chantez une chanson, mais s'il s'agit juste d'un entretien, vous êtes plutôt assise. Par contre, si vous devez chercher vos clés, vous allez vous lever et vous mettre à vous déplacer, ou si vous devez vous diriger à un endroit particulier, il en est de même. Mais vous avez un cerveau. Les cellules n'ont pas de cerveau. En fait, c'est intéressant, vous dites qu'elles sont intelligentes, mais c'est une forme d'intelligence tout à fait différente, qui est plus de l'ordre des phénomènes biologiques. On peut dire que les phénomènes biologiques en soi sont intelligents, en fait, et ils sont intelligents parce qu'ils ont été sélectionnés pour être efficaces et pour nous permettre de permettre aux organismes vivants de pouvoir vivre et évoluer. Donc c'est cette machinerie qu'on appelle le cytosquelette qui est utilisée pour beaucoup de fonctions différentes. Donc elle est utilisée pour manger, on parlait de phagocytose ou macropinocytose, et elle est aussi utilisée pour la migration cellulaire. Et en fait, c'est le détournement de la machinerie du cytosquelette vers l'une ou l'autre fonction qui vont permettre cette adaptation du mode migratoire à la fonction à un moment donné et qui va permettre de coordonner différents processus biologiques dans une même cellule. Donc ça, c'est l'apport qu'on a fait à la biologie cellulaire, à l'immunologie, à la biophysique, etc., une meilleure compréhension de la cellule. Ce qui est important, hein, parce que toute la recherche biomédicale est basée sur des connaissances fondamentales solides. Donc ça, c'est notre apport.
Cet apport, il remonte à quand ? Ça fait quelques...
Donc, en fait, notre premier article a été publié en 2008.
D'accord.
Et le dernier article sur les différentes choses que j'ai évoquées a été publié en 2022, qui était plus la description de ce processus, mais maintenant dans un tissu complexe qui est l'intestin. Donc, pour la recherche biomédicale, ce qui est important, en fait, d'abord, c'est que je pense que la migration des cellules dendritiques, c'est vraiment un phénomène clé et on n'aura pas aucune réponse adaptative sans migration de cellules dendritiques. Donc, il faut vraiment garder en tête que d'avoir une cellule dendritique dans un contexte de vaccination, puisqu'on peut injecter des cellules dendritiques pour vacciner, donc on prend les cellules dendritiques du patient, on les charge par exemple avec des antigènes tumoraux, si le patient est atteint d'un cancer, et on les réinjecte. Ou bien on injecte directement les antigènes tumoraux pour que les cellules dendritiques les internalisent. Tout ça, il faut que ce soit associé à la fonction migratoire des cellules dendritiques. D'accord ? Il faut qu'elles soient capables de pouvoir non seulement manger l'antigène et le processer, mais il faut aussi qu'elles soient capables de pouvoir se déplacer pour le montrer aux lymphocytes, s'arrêter aussi lorsqu'elle le montre aux lymphocytes. Donc la migration, c'est vraiment absolument fondamental au fonctionnement de ces cellules.
Est-ce que ces cellules dendritiques, elles s'activent dans toutes les maladies, c'est-à-dire à la fois les maladies les plus banales, par exemple, on attrape un rhume, est-ce qu'elles vont s'activer ? Ou alors seulement dans les cas les plus rares ? Est-ce qu'elles font une différence entre les petites maladies et les maladies les plus
non,
graves ?
Non, en fait, c'est une très bonne question, mais en fait, non. Très souvent, on est malade, mais on ne le sait pas. Et c'est parce que les cellules dendritiques, justement, ne distinguent pas les maladies graves des maladies pas graves. Et dès qu'elles voient quelque chose qui est potentiellement dangereux, elles vont réagir et elles vont mettre en place la réponse immune. Donc si cette réponse immune se met en place de façon très efficace, vous n'allez pas être malade, en fait, ou vous serez légèrement malade.
Pour revenir à votre travail, pour parvenir à cette découverte que vous avez décrite, je crois que vous avez une méthode de travail assez pluridisciplinaire, et vous l'avez dit, vous avez cité un physicien tout à l'heure. Vous avez fait appel à quelle autre discipline ?
Donc, en fait, moi, j'ai rencontré dans les années 2000, enfin, quand je suis rentrée de postdoc, donc je pense qu'on s'est rencontrés, je pense, en 2006, un physicien et biologiste moléculaire, il a les deux casquettes, Mathieu Piel, qui a intégré l'Académie des sciences cette année, d'ailleurs, et enfin, l'année dernière, mais il était là, présenté lors de la cérémonie du mois de juin, cette année. Et je veux dire que je pense qu'on s'est beaucoup inspiré mutuellement des travaux qu'on était en train de faire pour co-construire une nouvelle ligne de recherche. Et ce que je vous ai décrit jusqu'ici, c'est vraiment le fruit de cette co-construction.
D'accord.
Ça, c'est une forme de collaboration éventuellement interdisciplinaire. Mais il y a aussi une autre forme qui est on se rencontre, on aime la façon dont l'autre chercheur pense, réfléchit, fait de la recherche, ça nous inspire mutuellement et on construit quelque chose. Et moi, je dois dire, j'ai beaucoup dans ma carrière développé cette deuxième façon de travailler. D'abord parce que je suis amatrice de diversité sous tous ces aspects. Et je trouve ça très inspirant de croiser des gens, des chercheurs qui pensent différemment de moi. D'accord ? Moi, j'aime bien être challengée et j'aime bien m'ouvrir à des idées que je n'ai pas moi-même, en fait. Et ça, c'est... tous les chercheurs ne sont pas comme ça.
Oui.
Et ce n'est pas grave, d'ailleurs. Il n'y a aucune critique. Je pense que, en fait, l'intérêt de la population de chercheurs, c'est qu'on est tous différents et que chacun a sa propre approche. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça, mais c'est bien sûr parce que j'ai eu la chance d'être dans un endroit extraordinaire, qui était l'Institut Curie, et où il y avait d'abord une atmosphère propice à ce type d'interaction, et aussi des chercheurs assez hors normes, qui étaient très libres, créatifs, et non conformistes dans leur façon de penser, et aussi avec une volonté d'interdisciplinarité. Hélas, l'Institut Curie, comme beaucoup d'instituts en France, vivent des pertes de moyens depuis quelques années.
Qui sont importantes.
Très importantes. Voilà, ça, ce qui le menace aujourd'hui, mais c'est vraiment un problème grave, parce que c'est vraiment un lieu. C'était en tout cas vraiment. Mais ça l'est encore, mais la question, c'est est-ce que ça va pouvoir continuer à l'être un lieu assez extraordinaire dans le paysage de la recherche française, mais aussi de la recherche internationale.
Sur le volet interdisciplinaire à l'Académie des sciences, vous côtoyez aussi, il y a des mathématiciens, des physiciens, des
biologistes. Tout à fait. Donc l'Académie des sciences est par essence un lieu interdisciplinaire où on apprend des choses extraordinaires et qui nous permet de maintenir, je pense que ça fait partie de ses fonctions, de maintenir cette ouverture d'esprit que doit maintenir un chercheur, un scientifique. C'est absolument essentiel.
Anna-Maria Lennon-Duménil, un grand merci. J'invite les auditeurs à aller sur le site donc, de l'Institut Curie et le site de l'INSERM, où on peut trouver les articles sur le sujet. Et puis, nous mettrons également les liens qui renvoient à vos différentes recherches sur la page émission. Merci beaucoup.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Les podcasts de l'Institut de France.